48 FM Le Mag. Culture,
logement,
environnement,
cuisine, gastronomie.
48 FM.
Emploi, développement économique,
vie associative,
tourisme,
rubrique pratique.
48 FM Le Mag.
Sport, nature, TIC,
citoyenneté,
patrimoine.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 86e MAG de 48 FM. Donc le programme reste le même, une heure d'émission, ça commence bien, avec deux thèmes d'actualité locale. Donc avec moi pour présenter ce MAG aujourd'hui, Guillaume.
Oui, bonjour Julia.
Coucou Guillaume. Donc aujourd'hui nous allons parler culture et coopération, donc avec comme invité Sophie Thiers qui nous parlera des ateliers sauvages, donc ateliers artistiques installés au Salennes. Et Albin et Anaïs qui arriveront un peu plus tard, des amis de la Sablière, qui nous parleront donc d'un projet de coopération autour du hameau de la Sablière.
Dans les gorges du Tarn.
Dans les gorges du Tarn, tout à fait. Donc nous allons démarrer cette émission avec toi, Sophie. Est-ce que tu peux juste commencer du coup par te présenter un petit peu ton parcours, voilà.
Oui, moi je suis arrivée en Lozère après avoir fait des études d'illustration à Bruxelles, donc ça fait déjà 4 ans que je suis là. Pour m'installer, j'ai fait plutôt des boulots en relation avec l'activité artistique, mais qu'on peut appeler boulot alimentaire. J'ai été professeure d'art plastique, j'ai travaillé avec une compagnie de théâtre sur leur administration, leur communication et leur diffusion. J'ai ensuite même fait un peu de correspondance midi libre, tout ça, pour m'intégrer vraiment dans le territoire. Et à partir du moment où je me suis sentie prête à me lancer dans mon activité, j'ai créé donc les ateliers sauvages. Des ateliers qui répondent à des... Enfin, qui élaborent des projets artistiques autour notamment... en fait, amener une vision personnelle, esthétique et artistique, la mienne du coup, sur le territoire lozérien, et donc qui passe par l'enseignement d'ateliers, de workshops, des mises en place de pratiques artistiques peu connues ou méconnues, comme la sérigraphie, et un travail graphique qui travaille sur les communications un peu individuelles et personnelles par rapport au projet des gens.
Et alors, pourquoi la Lozère, finalement, dans ce parcours, pourquoi avoir choisi de venir s'installer au Salennes?
Oui, c'est vrai que ce n'est pas un saut de puce de passer de Bruxelles au Salennes, mais j'ai rejoint tout simplement quelqu'un qui habitait ici. Voilà.
D'accord, donc c'est l'amour qui...
C'est l'amour.
L'amour, toujours l'amour.
Non, mais voilà, c'est aussi intéressant de comprendre aussi pourquoi des gens choisissent de venir s'installer en Lozère. Et finalement... vous y avez trouvé aussi de quoi vous intégrer, c'est ce que vous nous disiez, et y développer vos projets.
J'y ai travaillé à ce développement et à cette intégration. Je ne me suis pas lancée tout de suite, consciente que pour créer une activité, il faut un certain réseau aussi, connaître un petit peu le territoire où on s'installe, si on ne veut pas être complètement à côté de la plaque aussi. Les activités de Bruxelles ou de Paris où j'habitais avant ne sont pas les mêmes. Et j'ai trouvé le défi plutôt intéressant, j'en avais peur au début. De me dire, qu'est-ce que je vais faire avec une carrière d'illustratrice en Lozère, est-ce que c'est possible? Et puis j'ai rencontré aussi d'autres gens qui étaient dans les mêmes genres d'intégration ou de défis que moi, ou bien tout simplement d'envie. Et ça aide, et on monte chacun des projets de notre côté, qui se rejoignent. Et du coup, il y a quand même une dynamique que je vais parfois chercher ailleurs aussi.
Voilà, c'est ça. Donc tu continues à travailler en relation quand même avec Bruxelles, avec le reste de la France, quoi.
Oui, aussi, il faut garder un réseau d'amis illustrateurs, d'autres associations, de compagnies de théâtre, n'importe, des choses où il y a besoin de créativité, de visuel, parce que je pense que ça permet de rester un peu dans le coup aussi et à un autre niveau qu'un niveau n'importe, hein, même où qu'on soit installé, que ce soit au niveau de la ville, du département, de la région, de la France et de l'international, quoi.
Ce que vous cherchez, c'est de l'inspiration, c'est des références, c'est des créations artistiques, c'est de la nourriture pour votre création. Quel est l'intérêt de cette ouverture à l'extérieur?
Je bouge pas mal, au moins une fois par trimestre, pour effectivement aller chercher de l'ébullition créative. C'est hyper important. C'est pas c'est s'inspirer, c'est pas recopier. Ou on garde notre propre univers toujours. Je pense que la marque de Sauvetière, des autres, des ateliers sauvages est ancrée, mais elle a besoin de nourriture et de projets extérieurs pour revenir, pour apporter des choses. C'est important. Sinon, c'est statique. Et effectivement, l'axe principal, finalement, des ateliers sauvages, donc, qui sont plusieurs choses, c'est le mouvement. Le mouvement, l'adaptation, suivre des saisons, mais pas rester dans une création figée.
Alors, vous en, peut-être pouvez nous en dire plus de ces ateliers sauvages.
Voilà, les ateliers sauvages, du coup, c'est donc, on va commencer par la partie atelier vraiment qui parle. C'est des ateliers d'enseignement artistique, mais plutôt basés donc, sur ma vision de l'art. C'est assez personnel, mais sur l'expérience graphique, sur l'expérience qu'on va pouvoir faire et qu'on n'imaginait peut-être pas possible avant de rentrer dans un atelier, des ateliers sauvages, et se laisser guider et pas se dire qu'on n'est pas artiste, on ne sait rien faire. Et moi, j'amène ça. J'ai envie d'amener des petites étincelles, des petites flammes quand on rentre dans la création artistique, en dehors du savoir dessiner, du beau, tout ce qu'on imagine
voilà,
autour du dessin.
On va plus être dans l'expérimentation, finalement, que dans l'apprentissage très carré et
d'une
académique,
technique.
D'une technique.
Complètement. En fait, je vais apporter des techniques, mais avec une liberté d'adaptation de chacun autour, qui sera pas... Donc, ceux qui veulent vraiment apprendre à dessiner une réalité qui est en face de nous, ils seront pas contents aux ateliers sauvages. Chacun a son propre langage, sa propre réalité, ses propres couleurs. Et c'est ça que je veux mettre en avant. Une réalisation de soi plutôt que la copie d'une photo de son enfant ou je sais pas quoi. Enfin, voilà.
Et ça arrive. Enfin, pour tout le monde peut participer. Comment enfin, voilà, est-ce qu'il faut être un petit peu doué artistiquement ou enfin, comment vous aiguillez les gens vers ces pratiques-là?
Je monte en général des ateliers qui sont faits pour tout le monde. Même souvent, si c'est pour enfants, les adultes restent quand même parce que c'est ouvert à tous. Mais c'est vrai qu'il y a des publics ciblés par rapport aux événements dans lesquels j'interviens. Pour l'instant, j'ai pas de local où je peux accueillir un public et imposer ma propre méthode. J'aimerais bien. Pour l'instant, c'est pas possible. Donc, je vais vers des associations, vers des structures, vers des événements pour m'intégrer dans ce genre de dans leur programme à eux, en fait.
Oui, donc, proposer cet atelier comme une des composantes d'un festival, d'un événement, etc. D'accord.
Et par rapport à ça, je vais créer un vrai projet à faire, même si c'est 2 heures, je vais créer des étapes où je vais amener les gens quelque part vers leur création à eux. Finalement, ce sera eux qui ont. Mais je vais pas intervenir dedans, mais je vais monter tout un processus pour qu'ils arrivent à ce qu'ils sont capables de faire et là où j'ai envie de les mener. Mais c'est pour vraiment tout le monde. Après, j'ai moins d'adultes. La demande lausérienne, c'est plus pour les enfants, surtout dans les événements. On n'imagine pas que... Enfin, on imagine moins que ce sont les adultes qui sont attirés par ce genre de projet. Mais j'aimerais bien. Et sinon, je fais aussi pour des publics spécialisés. N'importe, des structures... pour handicapés, pour...
D'accord.
Voilà.
Et tu fais aussi... parce que là, on parlait des ateliers donc, de création artistique pour le public, mais tu crées toi-même, en fait, au sein de ces ateliers, tu fais de la communication, de l'illustration, etc.
Oui. Alors, il y a moi, Sophie Thiers, je suis illustratrice, donc je vais faire des bouquins en tant que Sophie Thiers, illustratrice et écrivaine, du coup, je fais les deux. Mais dans les ateliers sauvages, je vais le mettre au service d'une communication graphique dont ont besoin soit des structures, soit des associations, soit des individuels. Et donc, il y a une vraie rencontre entre la personne ou la structure et le savoir-faire des ateliers sauvages pour donner une image appropriée et un visuel approprié à ceux qui le veulent.
Et est-ce que c'est pas compliqué, du coup, que Sophie Thiers, qui a sa patte quelque part, propose une communication pour telle ou telle association et qu'on ne se dise pas ah, ben c'est la même structure au final. Je ne sais pas si je suis claire.
Le fait de s'adapter
Oui, enfin, finalement, comment votre patte créatrice, finalement, s'adapte aux structures, aux différents sujets qui doivent être illustrés.
Est-ce que nous, public, on peut, en voyant, malgré que ce soit Sophie Thiers qui ait tout fait, on peut se dire, ah ben ça, c'est telle association, ça, c'est telle association, ça, c'est telle association.
Ah oui, oui, complètement. Mmh. Je reprends... En fait, effectivement, il y a deux travaux qui sont complètement séparés. En illustration, je vais faire du pur Sophie Thiers. Je n'ai pas de rencontre à faire avec quelqu'un, puisque en général, en plus, l'auteur, c'est moi. Donc, j'ai même pas de rencontre avec l'auteur du texte. Et là, je suis très exigeante. Je fais ce que j'ai envie. C'est important pour moi. Par contre, dans ce que j'ai monté avec les ateliers sauvages, il y a rencontre avec quelqu'un, toujours. Donc il y a deux univers, celui de la personne et de l'association, et celui des ateliers sauvages. Et si rien ne se fait dans la rencontre, il ne peut pas y avoir une identité visuelle qui est appropriée à la structure. Donc on va reconnaître forcément la structure. C'est à moi de travailler là-dessus. Je ne vais pas faire de ce que j'ai envie.
Oui, oui.
Par contre... Bien sûr, aussi, la structure va venir me voir parce qu'elle aime le travail que j'ai fait. Mais je pense que si on voit toutes mes réalisations, on voit une patte, mais rien n'est pareil.
Oui, enfin, c'est vrai que j'ai regardé le book hier sur le site. Effectivement, on voit qu'il y a effectivement des choses qui... On sent une inspiration commune, mais effectivement, ça a des choses qui sont différentes selon le type de production pour telle ou telle association, structure, festival. Enfin voilà, on voit qu'il y a quand même des pistes créatives qui sont différentes, même s'il peut y avoir un fil conducteur d'une certaine façon qui est lié à la personne qui les construit, j'imagine.
Oui, c'est hyper important, je pense, d'aller vraiment dans ce travail créatif au profit de quelque chose.
Et peut-être d'un point de vue technique, est-ce que vous pouvez nous dire plus sur les techniques que vous utilisez justement dans ces deux volets, hein, à la fois dans l'aspect illustration et puis dans l'aspect communication.
J'ai toujours une base manuelle, c'est sûr. Bon, même si je me mets de plus en plus à travailler avec l'ordinateur purement, il y a toujours une base manuelle de dessin. Et je vais... Par rapport à l'inspiration que j'ai par rapport au projet qu'on m'a donné, je vais choisir en fait. Je vais me dire, tiens, ça, ce serait pas mal, j'ai envie de travailler sur cet univers nature, je vais aller du coup me promener. C'est ça la différence peut-être avec un service qu'on va avoir dans des structures qui sont plus du domaine de l'imprimerie. Il va y avoir une vraie recherche, je vais me plonger entièrement dans le projet pour y répondre le plus proche possible de l'attente de la personne et le plus proche d'un univers individuel. Pas rentrer dans quelque chose qu'on voit partout. C'est ça qui est important. Donc là, je vais scanner des choses, je vais dessiner, je vais des matières. Enfin, il peut y avoir de tout, des tâches, des choses. Et après, on les met sur l'ordinateur. Évidemment, c'est imprimable.
Et du coup, tu disais quelque chose de très manuel, donc est-ce que tu vas plutôt être sur de la peinture, sur du collage ? On parlait de sérigraphie, tu pourrais peut-être aussi nous dire qu'est-ce que c'est exactement la sérigraphie, parce que c'est un terme assez récent, je pense, et une pratique un peu méconnue.
Surtout une pratique méconnue, bon, pas de tous, hein, évidemment, mais c'est une impression à la main. C'est un système d'impression qui va utiliser... Son gros avantage, c'est la couleur qui est du pigment pur. C'est pas un mélange comme en imprimerie industrielle des quatre couleurs de base. Ça va être du pigment pur et du coup la couleur va être vraiment très très belle dans une impression en sérigraphie. Et c'est ce que j'ai envie de proposer. Donc dans la partie que je viens d'installer juste en septembre là, c'est la partie plus artistique. Je ne vais pas approcher des clients, mais un public avec des expositions, le développement d'images vraiment artistiques, en dehors du texte et de l'illustration aussi. Donc ça va être deux choses. Ça va être proposer des expositions pour aller à la rencontre d'un public qui a peut-être envie aussi en Lozère de voir des choses qui changent un peu d'expositions plus historiques qu'on peut avoir. Et il y aura aussi cette partie service où je vais proposer... Par exemple, des gens qui veulent sérigraphier des t-shirts, parce que l'avantage de la sérigraphie, c'est aussi que c'est tout support. Ça peut être céramique, bois, tissu, sur des murs, sur des sols. Voilà. Donc, de rentrer dans un projet avec quelqu'un. Et par exemple, un groupe qui veut des affiches sérigraphiées, je vais faire un service. Je vais sérigraphier les affiches pour eux. On va choisir les couleurs ensemble, soit je vais apporter ma partie graphisme, soit eux, ils ont déjà leur visuel, et on va bosser ensemble là-dessus. Ça peut être, donc la sérigraphie, c'est aussi connu pas mal sur les festivals, où on peut sérigraphier en direct son t-shirt à l'image du festival, tout ça.
Oui, on a des Shérif Mouloud, là, nous, sur 48e de rue, là, cette année.
Tout à fait.
Qui sérigraphie les t-shirts pour ou contre. C'était chouette.
Plutôt pour.
Au moins, carrément pour, même. Disons-le.
Bien, alors on continue peut-être justement sur cette activité d'atelier. Comment vous voyez son évolution aussi, parce que donc vous nous parliez tout à l'heure d'un besoin peut-être de local. Comment vous vous projetez dans l'avenir par rapport à ces activités?
Il y a pas mal de choses encore à aborder, donc parce que je suis installée réellement depuis un an. Donc effectivement, il y a cette problématique de local. J'ai des possibilités pour l'instant. Le problème, c'est d'avoir quand même un roulement financier suffisant pour apporter un loyer à la structure ou le bâtiment d'accueil, hein, tout simplement.
Et aujourd'hui, vous travaillez chez vous?
Je travaille chez moi. Ouais. C'est pas très pratique. c'est difficile parce que c'est très solitaire déjà et ça manque de visibilité. Et puis, je pense que c'est important de diviser la partie intime, celle du travail, ouais. Qui permet quand même de se plonger dans une bulle de travail. Ça, j'ai vraiment envie de ça, et c'est quelque chose que j'ai envie d'amener dans les années à venir, il y a ça. Et puis après, je vais faire d'autres petits développements. Là, je suis en train de voir comment développer la communication web aussi. Parce que c'est important, c'est de plus en plus demandé, et voilà.
Là aussi sur une logique de prestation pour des acteurs, pour des,
voilà,
enfin pour voilà, pour des associations, des...
En fait, il y a deux axes à suivre. Il faut que je continue. Si j'ai créé les ateliers sauvages, je l'ai pas dit encore, c'est qu'il y a pas d'activité pour moi ici, il y a pas de boulot, tout simplement. Donc il a fallu que je le crée moi-même. Et donc si je le crée, je vais suivre mon axe de ce que j'ai envie de développer moi, de mes envies artistiques. Et ce que va me demander aussi le territoire. Donc là, si je développe du web, c'est plus pour ça, la deuxième partie. La sérigraphie, c'est plus pour mon envie, à moi. Et que j'ai un équilibre entre les deux. Mais parce que déjà, je ne pourrais pas vivre qu'en tant que Sophie Thiers illustratrice. Donc Sophie Thiers illustratrice a besoin des ateliers sauvages. Et je pense que les ateliers sauvages ont aussi besoin de Sophie Thiers illustratrice pour...
Oui, voilà, c'est au final ce projet d'installation, vous le construisez, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, vous êtes imprégné du territoire, aujourd'hui vous créez une activité, vous essayez de trouver le lien entre vos envies, ce qui vous fait envie, ce qui vous donne la motivation, et puis ce qui peut aussi conforter une activité, faire en sorte que ça fonctionne. Justement, le projet, pour vous, il avance au final.
C'est ça qui est
important. Et vous avez, j'imagine, des difficultés, peut-être aussi des contacts qui vous permettent d'avancer aussi, justement. Je sais pas.
Mais en fait, les difficultés, elles arrivent là. La première année était plutôt fluide. Les difficultés arrivent parce qu'il y a les structures ont moins d'argent à investir dans une belle communication, dans ce genre de choses, ou dans des interventions artistiques, des ateliers. Donc elle arrive et elle est financière. En plus, si je veux développer et m'installer, c'est pas compatible. Donc j'ai remis tout ça en question pour voir quel axe pousser pour que ça puisse continuer à vivre, tout simplement. Donc c'est là où il faut se diversifier, peut-être avoir moins de temps pour des choses créatives et d'abord, et puis plus vers des choses qui répondent à des besoins, puis ensuite voilà, je suis à mon petit bonhomme de chemin, mais c'est vrai que, et je suis en train de voir s'il n'y a pas des aides aussi, parce que c'est les moments où il faut être aidé, quoi, parce que voilà, moi je veux, enfin voilà, sinon ça s'arrête tout simplement, et c'est dommage.
Et tu me disais avant l'émission que là, du coup, les ateliers sont sous la forme d'une auto-entreprise et peut-être passer sous forme associative, du coup, pour que les gens puissent peut-être plus s'approprier ces ateliers.
J'aimerais bien pour la partie publique, je pourrais pas pour la partie clientèle, donc d'offrir des prestations graphiques, enfin d'offrir façon de parler.
Proposer, on va dire.
Proposer. mais pour les ateliers, pour accueillir d'autres artistes aussi. Là, j'avais fait un événement, par exemple, pour ouvrir l'atelier de sérigraphie et le rendre visible et public. J'ai fait un atelier au Café Discard de la Girafronde à Marvejols, enfin une exposition, une sortie de résidence où j'avais invité 5 artistes à créer avec moi une exposition autour du Discard et de la musique. Et donc ça...
Et du coup, actuellement, sous la forme d'auto-entreprise, nous, on ne peut pas te donner directement des fonds. Donc comment le public peut faire pour soutenir quelque part les ateliers ?
Et ben justement, en venant peut-être à ces événements, tout est... Bon, pour l'instant, pour la mise en ligne des activités des ateliers sauvages, il y a un site, mais qui est en construction, parce qu'on a toujours le moins de temps de bosser pour soi que pour les autres. Mais on peut suivre sur Facebook tout ce qui se prépare, tout ce qui va avoir lieu, et notamment les expositions. Donc ce serait peut-être de suivre sur Facebook et puis de venir quand il y a quelque chose de proposé.
Et puis peut-être les organisateurs de manifestations culturelles ou même peut-être de journées, d'événements, peut-être qui seraient intéressés justement d'avoir ces ateliers, et je sais qu'il y en a un certain nombre qui nous écoutent, pourront peut-être aussi se dire bah, « Tiens, oui, proposons à Sophie de venir faire un atelier dans notre programme », même si effectivement c'est toujours compliqué dans ces périodes un peu de contraintes budgétaires, pour toutes ces structures, mais c'est aussi un peu cette offre de services qui existe.
Après, pour proposer, c'est vrai qu'ils aiment bien voir en amont. Donc du coup, est-ce qu'on peut voir un peu ton travail là bientôt ou...
Ça se met en route. Ça se met en route, vraiment. Je suis dans cette démarche-là, donc avant d'avoir des choses plus concrètes comme le local, tout ça. Donc je suis en train de mettre tout ça en ligne pour qu'on puisse vraiment suivre. Et que, voilà, en dehors de Facebook aussi, puisque tout le monde ne l'a pas. Donc les newsletters... Et voilà, et puis ça se met en route parce que ça devient public. Avant, quand c'était des ateliers juste ponctuels et de la clientèle, il n'y avait pas besoin. Là, je veux mettre des expos, je veux faire des résidences, je veux y aller à fond aussi dans un truc qui bouge. Donc là, il faut que ça suive derrière, effectivement, sur l'information.
Et on vous verra bientôt peut-être sur certains événements.
Oui, par exemple. Bon, alors, en tant que Sophie Thiers et les Ateliers Sauvages, les deux entités... On sera au salon Emlire, là en décembre, organisé par la Ville de Mende et la bibliothèque.
48e FM, il sera aussi. Hein.
Oui, et puis il n'y allait pas en décembre parce que c'est le 29 novembre.
Voilà.
C'est juste comme ça.
Oui. Normalement, c'est le premier week-end de décembre, donc non, n'y allait pas en décembre. Là où normalement, je fais aussi des ateliers pas mal avec la bibliothèque. Donc voilà, je suis très présente à la bibliothèque de Mende.
Une grosse journée, effectivement. Qui sera précédé d'un mag de 48 FM, d'une émission littéraire et toute une journée en direct depuis la Halle Saint-Jean.
Depuis la Halle Saint-Jean, avec des interviews toutes les heures, des rencontres avec le public et surtout avec les artistes qui seront présents et les différents acteurs en fait du salon. Voilà. Bon.
Bien, mais on va peut-être faire une petite pause musicale. Qu'est-ce que tu nous proposes d'écouter?
Alors moi, Julia, je propose Ed Sheeran qui fait une reprise de Ozier. Enfin, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Et la chanson s'appelle Take Me to the Church. Et on se retrouvera juste après, donc avec Albin et Anaïs, qui viendront nous parler donc d'un projet de coopération sur le site des Sablières dans les Gorges du Tarn. Merci Sophie.
Merci à vous.
Merci.
She's the giggle at a funeral, knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever could speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak, fresh poison each week. We were born sick, I heard them say it. My church offers no absolutes. Told me worship in the bedroom, only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. We were born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. 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 Take me to church and I'll worship like a dog. The shine of your light. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that topless death. Good God, let me give you my life. Take me to church and I'll worship like a dog.
FM Le Mag.
Et on se retrouve dans ce 86e Mag de 48FM. Alors Julia, je crois que tu avais un petit message personnel à transmettre suite à cette chanson.
Voilà, donc ce message s'adresse à Fab qui fait l'émission Les Doigts dans la Reprise. Fab, on ne se connaît pas encore, mais si tu pouvais faire une émission sur Ed Sheeran qui fait beaucoup de reprises qui sont originales, très différentes et en général bien meilleur que les originaux. Donc Fab, si voilà, tu entends
le message est passé.
C'était la minute groupie. Donc maintenant on va pouvoir continuer ce 86e Mag, toujours en direct de 48FM. Donc après avoir parlé culture avec Sophie Thiers des Ateliers Sauvages, on va parler un petit peu coopération. Donc Albin, qui est secrétaire de l'association L'Essentiel. Bonjour Albin.
Bonjour.
Albin, est-ce que tu peux commencer par te présenter un petit peu ton parcours, qu'est-ce que tu fais?
Donc on va rester sur la culture puisque ce sera de la coopération culturelle. Il y aura on va avoir en fait il y a plein de volets puisque c'est un projet vraiment qu'englobe tout le monde. En fait, on est plus qu'un projet, on est sur un véritable, ouais, c'est un projet de société. On est sur un projet qui est ouvert pour tous, par tous et avec tous, en gros. C'est une prise de parole pour faire parler de la coopération. Parce qu'aujourd'hui, en fait, les valeurs coopératives sont mises de côté parce qu'elle arrange pas grand monde. Parce que la valeur coopérative est dénuée, met un peu l'argent de côté. Donc c'est pour ça que cette méthode d'organisation et d'aboutissement d'événements n'est absolument pas mise en avant dans toutes les techniques de managing, challenger, comment réussir, etc. Ça arrange pas ceux qui tiennent un peu ce type d'enseignement et ce type et en fait je vais vous parler donc de la Sablière. La Sablière, donc en fait c'est un hameau du 11e siècle dans les gorges du Tarn, et on peut pas en parler si on le voit pas, c'est-à-dire qu'on est sur un hameau qui est en rive gauche des gorges. Tous ceux qui ont pris des gorges en fait connaissent le hameau de la Sablière parce que c'est un hameau qu'on ne loupe pas. On comptabilise, et c'est ça qui est très intéressant, on comptabilise 250 000 prises de vue par an, c'est-à-dire qu'il y a 250 000 personnes qui s'arrêtent pour prendre en photo le hameau. On est sur la D907, et sur cette D907, il y a 800 000 visiteurs qui la prennent chaque année. Et moi, j'ai juste calculé qu'une voiture sur quatre minimum de touristes s'arrête pour le prendre, puisque c'est juste voilà. Et je me dis, qu'est-ce qui se passe s'il y en a une sur deux qui s'arrête pour lire ce qui a marqué sur le panneau? Et on a un beau panneau effectivement qui peut dire beaucoup de choses. Et ancien publicitaire que je suis, je me suis rendu compte qu'en fait que cet endroit était très 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 prometteur. pour faire valoir beaucoup de choses. Et voulant tourner vraiment la page au niveau de la publicité, mais voulant mettre mes compétences au service du bien, je me suis dit, est-ce qu'on pourrait parler d'un beau projet? Et du coup, faire un beau projet. Et du coup, pour moi, en termes personnels, vivre un beau projet. Et c'était par rapport à ce que tu disais aussi tout à l'heure, comme quoi il y a deux nids, en fait. C'est vrai qu'il y a ni privé, ni professionnel. Là, pour le coup, ouais, c'est vrai que j'ai mélangé un peu les deux, puisque je vis donc à La Sablière, et je vais faire des activités, des projets à La Sablière. Donc là, pour le coup, j'ai le bureau à la maison, mais je souhaite rester en extérieur, puisque maintenant je suis régisseur, donc plus que secrétaire de l'association qui est juste, et qui n'est pas encore complètement fondée, hein. L'association sera vraiment officielle à la fête du printemps. Puisqu'on va parler de l'événement de Chanter Noël, qui sont les premières festivités de décembre, qui sont le lancement officiel de La Sablière en grande pompe, ben, je l'espère. C'est bien parti, puisque on a fait donc notre première journée portes ouvertes, donc dimanche. On a eu plus de 120 personnes à cette journée-là, et la pluie était battante. C'est tout pour vous dire qu'en fait, ben, les 120 personnes, ça a doublé la population des Gorges du Tarn en l'espace d'une journée. Donc c'était quand même intéressant. Et on se retrouve effectivement à avoir un outil qui est magnifique. Et donc le but, en fait, il est d'y faire de belles choses. Je pense que cet endroit ne peut que se prêter à la transmission de savoir, et à l'échange. Donc on est sur un lieu, en fait, où tous les ateliers, et je dis bien tous les ateliers, qui seront en cohérence et en légitimité avec le lieu et ce qu'on souhaite y faire, seront les bienvenus. C'est-à-dire que tout le monde peut vivre sa passion. En fait, c'est un lieu où on reprend un peu le temps de vivre sa passion, de vivre pour soi, de s'amuser. Le but, vraiment, le but premier, il est de s'amuser, je me le dis tous les jours, hein, parce que c'est une vie qui est difficile, hein, parce que ça demande beaucoup d'efforts physiques à courir partout. Mais on est, parce qu'il y a 65 hectares de terre, on est sur 8 bâtisses, il y a 400 mètres de dénivelé sur le terrain, bref, on se retrouve à, voilà, il y a les ânes à s'occuper, il va bientôt avoir les brebis, il va bientôt avoir les chèvres, il va falloir s'occuper du charretier, bref, beaucoup de choses.
C'est un monde à part, un petit peu, les Sablières.
C'est complètement le monde à part. Déjà, vous êtes en rive gauche des Gorges du Tarn. Donc déjà, vous êtes sur une rive où il y a effectivement, en face de vous, vous avez donc 800 000 personnes qui passent en voiture. Et chez vous, en fait, vous êtes deux, vous êtes quatre, vous êtes six, vous êtes le nombre, en fait, de convives et d'invités qui sont présents dans le hameau. Et donc c'est juste surréaliste comme, de toute façon c'est un endroit qui est surréaliste, c'est pour ça qu'il y a tant d'engouement à vouloir le découvrir, parce que ça a toujours été fermé. Donc du coup on réouvre le hameau, on y fait un beau projet de sensibilisation environnementale et écologique, on fait des ateliers, on va y développer un maximum de choses. On est en train donc de mettre sur pied un projet qui a une allure de succès. Voilà, il y a tout sur le papier est bon, hein, tout sur le papier est bon. Donc maintenant, ce qu'il nous faut juste, c'est une bonne direction des programmes pour justement s'occuper de tout ça. Parce que moi, je peux pas. Moi, quand je dis moi, on est quand même une équipe derrière. Hein, mais c'est-à-dire qu'on n'a pas d'équipe bureautique fonctionnelle, comme je dirais. Donc on a besoin effectivement d'une direction des programmes. Mais sinon, en dehors de ça, on est sur un projet qui, comme c'est parti, va rencontrer le succès. Et donc, on est ravis d'être là. Et merci beaucoup. Et on a besoin de notre signalétique sur des ardoises. Donc, nous, on a besoin de sérigraphier des ardoises. Et parce que c'est les ardoises qu'on va utiliser pour mettre plein de choses.
Voilà, parfait. La négociation est en cours.
Il faudra venir voir.
peut-être que vous pouvez nous dire un peu, parce que vous nous avez parlé d'un projet. Mm-hmm. D'agroécologie.
Tout à fait.
Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce projet?
C'est comment l'agroécologie m'a amené à faire ce projet-là. Parce qu'en fait, j'ai voulu acquérir la Boubals, qui est une toute petite grange à côté de La Sablière, à 800 mètres de La Sablière. C'est son voisin, qui est une grange désinfectée et qui, aujourd'hui, accroche du projet PPRN de la fermeture des gorges. Je ne sais pas si vous êtes au fait de ce projet. C'est la prévention des risques qui font que toutes les gorges sont en train de se fermer. C'est pour ça qu'on est sur une fermeture vraiment complète des gorges et que le terme revitalisation est un grand mot pour les gorges, parce qu'il en faut. Et en fait, j'ai voulu développer un projet agroécologique là-bas pour effectivement avoir toute la légitimité de pouvoir exercer une activité. Et dans ce cadre-là, donc du coup, je me suis battu pendant un an et demi avec les autorités pour pouvoir respecter des objectifs paysagers, des objectifs patrimoniaux, des objectifs sociétals. Et on se rend compte, en fait, en écoutant Pierre Rabhi et en le rencontrant, que pour arriver à honorer ses missions, il faut faire de l'agroécologie. Donc en fait, on se retrouve pas tant à vouloir faire de l'agroécologie, c'est l'agroécologie qui m'a amené à faire le projet. Et si on parle d'agroécologie, donc là on va directement sur la fête de septembre, puisque la fête de Sapran sera entièrement consacrée à la remise en culture des terrasses. Il y a 64 hectares de terre Il y a tous les murets à récupérer. Il y a un ancien chartier absolument splendide. Il y a des pins de 40 ans qui sont dessus, puisque rien n'a été fait depuis les années 20. Et donc, voilà. Et donc, c'est un projet du coup fédérateur. Et de, voilà, on ne peut pas parler de revitalisation si on ne parle pas d'agroécologie. On ne peut pas parler de retour à la ruralité si on ne parle pas de retour à la terre. Et donc, c'est toutes les valeurs. C'est pour ça que je cite souvent Pierre Rabhi, parce que je veux être un oasis en tout lieu. Hein. Je n'aurais pas encore demandé la permission. Mais ce serait beau en plus, parce qu'on serait le 48. Alors pour la Lozère, ce serait quand même toute une image. Mais de toute façon, c'est là où on s'en rend compte. C'est-à-dire toutes les images et tout vous encourage. Quand vous êtes sur une juste lignée, tout vous encourage. Et on est sur une juste lignée depuis un an et demi. Donc le projet voit le jour et le projet est parti et va se lancer avec cette deuxième journée porte ouverte de dimanche.
Et donc là, tu viens de nous parler donc d'un volet plus environnemental, patrimonial, etc. Mm-hmm. Mais il y a aussi un volet quand même socio-culturel important. Tu peux créer du lien entre les
intergénérationnel,
personnes, entre les particuliers et puis les acteurs locaux. Mm-hmm.
Tout à fait, tout à fait. Tous ceux qui sont effectivement présents. On est vraiment sur l'intergénérationnel. Mais ça a déjà commencé, c'est-à-dire qu'il y a déjà des anciens. Mon visiteur le plus vieux, il avait 87 ans. 87 ans, il faut descendre effectivement la barque, il faut traverser parce qu'on traverse par une barque. Hein. Donc on est en train d'étudier justement de professionnaliser la traversée avec des bateaux vraiment de bateliers. Soit ça, soit il y a un appel à subvention aussi pour une passerelle en pont de singe, mais de manière vraiment temporaire pour les événements. Une subvention qui ressemble à rien. La passerelle pont de singe coûterait 2 200 € hors taxe, c'est pour vous donner une idée. Ça permettrait de viabiliser tout le projet pour juste assurer, donc il y a un appel qui est fait de cet ordre-là. Et puis voilà, et puis ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a ce qui se passe en rive gauche, ce qui est une chose, avec les ateliers, avec effectivement une capacité maximum de 80 personnes dans le village par jour, ce qui est beau si on fait 9 jours de festivités. Si on arrive à tenir les 9 jours de festivités, on double pas la population des gorges, mais on double la population des deux gorges, des causes et du grand site. Donc c'est tout ça pour vous dire en fait que voilà, le titre du journal de Millau de la semaine dernière était « Revitaliser les gorges, un grain de sable prometteur », qui était un très beau titre en parlant de la sablière. Je trouvais que le jeu de mots était beau. L'autre titre aurait pu être « Le salon de l'intersaison du tourisme ». Le but est de désaisonnaliser le tourisme, le but est de faire vivre notre gorge, d'utiliser le tourisme, et attention, je fais une grosse distinction entre tourisme de divertissement et tourisme de découverte. Donc, je veux vraiment que ça soit un tourisme de découverte, on est là pour apprendre des choses et pas pour se divertir sur n'importe quoi. Et donc voilà, et donc on offre effectivement on a un outil qui est magnifique, voilà. On a un outil qui a servi dans les années 20 à faire connaître les gorges du Tarn, puisque Édouard Alfred Martel vivait là, notre spéologue qui a fait connaître tout le tourisme des gorges, etc., qui a fait venir tous les Parisiens de l'époque, donc voilà. C'était la famille Goupilla qui a entièrement rénové le hameau. On est sur du parquet Versailles, on est sur du faux plafond en chêne, on est sur de la tomette partout, on est sur 300 marches métalliques qui ont équipé le cingle gros au-dessus. C'est-à-dire que vous voyez les vautours du dessus, vous les entendez voler, c'est juste exceptionnel. De toute façon, c'est un lieu qui est fou. Il y a 800 mètres de dénivelé sur le terrain, c'est pour vous donner une idée, quoi.
Alors, ce projet, il se réalise... vous êtes propriétaire du hameau ?
Non,
comment c'est construit ?
Non, moi, j'ai une jouissance exclusive. Je laisse les problèmes fonciers à ceux qui veulent régler le foncier. Moi, je suis régisseur. C'est-à-dire que j'ai contre une... les propriétaires sont toujours les mêmes depuis 25 ans. Ce sont des propriétaires belges qui ont aussi une légitimité, puisqu'ils ont un peu de famille quand même dans la région. Et ces gens-là, en fait, je peux en dire que du bien, puisqu'ils m'ont fait confiance. Et donc, ils me laissent les clés en échange d'un gardiennage du hameau et d'une valorisation de ces pierres. Et ce qui est bien parti avec les chantiers participatifs et tout ça, ils me laissent exercer ce projet, le projet de la sablière. Donc, du 1er septembre au 30 juin, j'ai effectivement les clés du hameau pour y développer ce projet. Ils ont la présidence de l'association, bien évidemment. Et puis voilà. Et donc, du coup, c'est la première pierre de coopérative, en fait. C'est la première pierre coopérative. C'est-à-dire que trouver la sécurité dans l'interdépendance, ne pas attendre, mais construire au jour le jour et voir comment ça se passe et continuer si ça marche bien. Déjà, c'est quelque chose d'important dans les relations humaines et encore plus, du coup, dans les relations professionnelles. Et du coup, voilà. Et donc, du coup, on est sur... Donc, je suis régisseur pour évoquer votre question. Je suis régisseur et j'ai la jouissance du lieu et c'est ce qui est le plus important.
Oui, non, mais après, c'était plus l'ensemble de ce projet, comment vous y bâtissiez dessus. Mm-hmm. Au final, et avant votre arrivée, qu'est-ce qui s'y passait dans ce moment?
C'était fermé toute l'année. Ouais, donc ils venaient en juillet, en août avec leur famille et leurs amis.
Ouais, donc, c'est aussi d'une certaine façon. C'est vous qui avez démarché les propriétaires.
Complètement. Oui, c'est en battant pendant un an et demi pour la petite grange d'à côté que j'ai rencontré le propriétaire. Jour, c'est pour ça qu'on parlait de synchronicité tout à l'heure, l'un des 3 jours qui passent par an sur le domaine.
D'accord.
Je l'ai rencontré ce jour-là, il m'a dit, tu sais, j'ai des problèmes pour l'ouverture quand on arrive, il y a l'eau. Et je lui ai dit, bah, si tu veux, c'est un problème que si c'est pas le voisin qui le fait. J'avais déjà acheté la Boubal, hein, la grange d'à côté. Je me suis rendu compte, je me suis battu pendant 6 mois pour avoir les permis. Et voilà. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai en fait soumis le projet. Le projet de la Sablière est exactement celui qui avait été fait pour le projet Boubals, mais qui est renforcé par effectivement la présence des bâtis, qui est loin d'être négligeable. Là, on a un véritable hameau un véritable dispositif de réception pour tous les ateliers.
Tout à l'heure, tu parlais donc de chantier participatif. Ça consiste en quoi, moi, si je veux venir? Comment ça se passe?
Concrètement, donc il y avait une première journée dimanche. Il y en a une deuxième ce dimanche. Donc on vient, on se dit qu'est-ce que j'ai envie de faire. Il y a 3 chantiers participatifs qui sont proposés, mais il pourrait en avoir un 4e. Si, en fait, on est sur la coopération et sur la déclaration. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on vient et qu'il y a 3, 4, 5 personnes qui veulent faire la même chose et qu'on est dans une juste lignée, ben, on le fait. Donc là, les chantiers participatifs qui sont prévus, ben, c'est la réhabilitation d'un escalier, donc taille de pierre. La construction d'un petit muret, donc taille et construction de muret en pierre sèche, autour d'un arbre qui est mort depuis 20 ans et qui est déjà une résidence d'abeilles et d'insectes pollinisateurs naturels. Donc là, on va le transformer, cet arbre que les propriétaires voulaient enlever parce que justement il était mort et qu'il fallait l'enlever. Bah là, on va faire un joli petit bâti au pied pour que ça soit une résidence à insectes, puisque les insectes pollinisateurs et la maison des abeilles, qui est une des maisons spécialement dédiée par le village, et celle que vous voyez le plus haut, qui est spécialement dédiée, qui est une salle pédagogique. En fait, le thème insectes pollinisateurs, protection des abeilles, les stages néo-apiculteurs seront les premières actions concrètes du hameau, et ont déjà été, puisqu'on a déjà défriché la terrasse, qui était une terrasse d'apiculture avant. Hein. On refait que ce que les anciens faisaient, puisqu'on est sûr que ça marchait. Et donc voilà.
Tu disais, par exemple, comme chantier, va y avoir construction de murs en pierre sèche. Mm-hmm. Mais murs en pierre sèche, c'est quand même un savoir-faire particulier, bien c'est sûr. Pas n'importe comment. Que vous proposez du coup des stages en amont? Est-ce qu'il y a des rencontres avec des gens?
Bah, il y aura la présence des animateurs. Ce seront présents les animateurs les plus légitimes qui pourra être. Donc on va du bâtisseur solo, en passant par l'association des Lauzes. Alors j'ai pas pris le nom de tous les partenaires qui peuvent répondre présents. Mais de toute façon, il n'y aura présence d'un stand que s'il y a légitimité qu'elle le soit. Donc effectivement, on est sur la présence donc des acteurs, tous les acteurs locaux qui sont légitimes dans chaque opération. Que ce soit les murs en pierre sèche, on n'a pas parlé des toitures en lauze qu'on va refaire. On va faire aussi une démonstration des toitures en lauze, parce qu'il y a un vrai problème de formation des jeunes pour ces toitures-là. Donc le métier est en train d'être abandonné, et ça c'est grave. Donc et c'est au détriment de toutes les prochaines rénovations des maisons et patrimoine du territoire. Donc ça, il faut absolument que des jeunes réapprennent le goût et donc voient comment on fait, et qu'on fasse un beau chantier, une belle démonstration, comme quoi effectivement c'est quelque chose qui est honorable et qu'il faut le promouvoir. Voilà, et puis voilà, troisième, et puis beaucoup beaucoup d'ateliers, je pourrais tous vous les citer, je les ai je sais pas où, mais on a beaucoup de...
Et il y a la création du coup aussi d'un parcours d'herboristerie.
Oui, tout à fait.
Qu'est-ce que c'est?
Là, c'est juste une identification des plantes, en fait. On n'est pas sur planter quelque chose, on est sur identifier déjà quelque chose.
Donc c'est quoi? C'est un parcours dans les gorges du Tarn avec des petits panneaux?
C'est à la maison. C'est soit à la maison, donc soit sur les 65 hectares de terre, soit sur le chemin, et je pense qu'on y va, de plus en plus. Mmh. C'est-à-dire que le chemin qui relie le Rosier et la Sablière, on est sur un GR d'une heure. C'est un GR... Bon, après, je suis désolé de mon enthousiasme, je suis un peu grisé, donc je m'excuse auprès des auditeurs, auprès de vous sur mon enthousiasme, mais on est sur effectivement sur un chemin d'une heure qui est juste magnifique et qui pourrait se prêter très très bien à un parcours contemplatif ou quelque chose qui effectivement montre des choses. Donc le but, c'est d'identifier, déjà de savoir si on peut en faire quelque chose avec ces plantes, et puis voilà, c'est tout l'avantage aussi de l'atelier cure médicinale, plante médicinale que je veux mettre en place, qui est juste une connaissance, hein, y a rien d'exceptionnel, c'est juste identifier le savoir, on est sur une transmission de savoir et une transmission de faire. Donc le savoir et comprendre pour les cures médicinales, puisque j'en parlais et je vais aller au bout sur l'atelier, on est sur comment assimiler les plantes médicinales. Parce qu'aujourd'hui, personne ne le sait, tout le monde voudrait le faire et personne ne le sait. On connaît, à la limite, on arrive, nous, jeunes, de jeunes générations, 70, 80, 90, à comprendre une tisane et une décoction. Mais après, quand on va vers le bain complet, qui est une méthode super pour assimiler les plantes, c'est juste s'immerger dans un bain avec une méthode. Il y a toute une méthode, mais qui est connue depuis par nos grands-pères et nos arrière-grands-pères. Voilà, ce serait pas magnifique d'offrir à Noël à sa maman, à sa mamie, à sa sœur, une cure d'ortie. Voilà, juste une cure d'ortie. Tiens, maman, je vais te donner du bien-être cette année. T'en fais une tous les mois et tu vas voir, ça marche. Et ça marchera, quoi. Et ça marchera. Donc c'est fou, quoi. Moi, je vais vous parler d'une synchronicité qui s'est passée il y a moins de 15 jours. En fait, je suis tombé sur la famille Bénézèche. La famille Bénézèche, c'est une famille assez connue donc du Rosier. Il y en a pas beaucoup, il y en a 4 grandes familles. C'est la famille Bénézèche. Et Madame Bénézèche, donc la petite fille Bénézèche, me donne un fascicule de son grand-père. Et son grand-père, donc Monsieur Bénézèche, qui était pharmacien, ou je sais pas. Il a fait un petit livret que je n'ai malheureusement pas pris avec moi. Il a fait un petit livret sur les plantes médicinales et la nécessité après la Première Guerre mondiale de reprendre la main sur nos pharmaceutiques, parce qu'on était complètement tributaire des marchés étrangers. Et c'est un véritable appel à la mobilisation de récolter des plantes et après avoir lu ce bouquin, quand je dis 10 jours, j'exagère, c'était il y a un mois ou un mois et demi, ça m'a redonné envie. J'étais le chanter Noël, là, c'est vraiment, je tiens à ce titre remercier le comité départemental du tourisme de la Lozère, madame Donadieu, Brigitte, c'est Brigitte Donadieu, donc qui, lors de la journée portes ouvertes, juste des patrimoine, parce que je me devais ouvrir pour la journée du patrimoine, c'était évident, qui m'a remis le pied à l'étrier qui m'a forcé à y aller. Donc là, on y va. Et voilà, là on est prêt effectivement à promouvoir un maximum de choses. Donc il y a deux choses, je souhaite juste dire, après je me tairai parce que je parle trop. Les ateliers qui se passent à Sabière est une chose, avec toute la transmission qui peut avoir, les échanges qui peuvent se passer en rive gauche. Et je suis ravi que tous ces échanges, donc complètement désintéressés sur un modèle associatif, sur un modèle désintéressé, se passent en Lozère, en Languedoc-Roussillon. Et donc ça c'est une chose. Et en rive droite, donc juste en face du hameau, avec la visibilité et la force de diffusion que nous pouvons avoir. Nous utilisons donc ce qui s'y passe pour encourager et motiver les gens à faire de même de leur côté, etc. Et multiplier ce. De toute façon, on n'invente rien. C'est tous les bénéfices possibles du réseau, notamment pour le citer, donc Oasis en tout lieu du réseau Colibri de Pierre Rabhi, de dire allez, on multiplie les endroits d'initiative. Et c'est là où je tiens maintenant à vous remercier de diffuser ces informations-là, que c'est grâce à vous qu'on peut effectivement. Développer. Merci beaucoup.
C'est le métier des radios associatives, un média social de proximité. Et c'est pour cela que l'État nous finance, donc c'est aussi un autre rôle que de faire cela.
Merci.
Il n'y a pas de souci. Peut-être, vous nous avez parlé donc de plein de projets finalement, de plein de choses qui vont arriver. Quelles sont les grandes étapes de maintenant, quoi.
Alors c'est une vision à 10 ans, hein, pour vous rassurer. J'ai fait mon planning à 10 ans. Hein, c'est pour ça que c'est important d'avoir une globalité pour pouvoir avancer. C'est-à-dire que chaque petit projet pourrait être une motivation en soi, mais la vraie motivation est dans la globalité. Et c'est en construisant la globalité que ça me motive vraiment tous les jours. Et comment aujourd'hui concrètement, qu'est-ce qu'il y a concrètement aujourd'hui ? Il y a concrètement aujourd'hui une journée porte ouverte dimanche prochain. Un appel à tous les animateurs et passionnés de venir voir ce qui s'y passe et de voir en quelle mesure ils peuvent y participer, si le projet leur plaît. Donc je les invite en fait à surveiller donc vos journaux, en espérant qu'effectivement que le relais en Lozère soit bien effectué au niveau de la presse écrite, parce qu'on a besoin effectivement de pouvoir le lire pour le comprendre. À ce titre-là, je vais envoyer dès tout à l'heure, dès maintenant, l'article qui a été fait sur le journal de Millau de la semaine dernière, qui est vraiment une très belle synthétique, une très belle synthèse, pardon, de ce projet, parce que c'est vrai que j'ai du mal, moi, à avoir du recul suffisant pour pouvoir en parler de manière très claire, et je m'en excuse, veuillez m'excuser.
C'est parfait.
Et donc voilà. Et donc concrètement, c'est dimanche que ça commence. Deuxième porte ouverte dimanche. Et donc dimanche, avec la première porte ouverte qui a eu lieu donc la semaine dernière, où il y a eu 120 participants, déjà une vingtaine d'inscrits, déjà voilà, beaucoup de choses qui sont déjà réalisées. Nous allons mettre sur pied les 9 jours de festivité donc du mois de décembre, qui sont les trois premiers week-ends donc de décembre, vendredi, samedi, dimanche, les 3 premiers week-ends, donc 9 jours de festivité prévus. Bien sûr, on oublie la période de Noël, parce que Noël, c'est pour être en famille. Et pendant ces 9 jours, on reprend le temps de faire quelque chose, et on reprend le temps pour soi, donc à la fois de créer, parce que c'est important de créer, donc on va créer tous les cadeaux, et on va confectionner nos cadeaux de Noël. Et on va du coup partager du moment autour de ça. Et je dirais rien si je parlais parlais, si je vous parlais pas de la crèche vivante qu'il va avoir à la Sablière, puisqu'on va faire une véritable crèche vivante. Il y a déjà les ânesses en liberté dans le village. Et on va effectivement, se rapprocher comme ça de la nature et faire un beau domaine féerique. On a déjà fait pleurer du monde ce dimanche, je vous assure. Il y a une personne qui avait les larmes aux yeux, ça fait plaisir à voir. Et rendez-vous donc dimanche. Donc c'est là que ça commence concrètement. Après, j'ai peur d'être dépassé. C'est-à-dire qu'on a une capacité maximum. Mais tenez-vous au courant, quoi.
Justement, est-ce qu'il faut s'inscrire? Comment...
Normalement, la journée porte, si vous voulez, aujourd'hui, je suis embêté. Je suis embêté par le succès que ça rencontre. Faut mieux que ça que le contraire, bien sûr. Donc, je voudrais que personne soit déçu. En fait, il pourra pas avoir d'échec si les gens prennent le chemin. En fait, il y a deux façons d'accéder au hameau. Oui. Soit par la barque, effectivement, donc ça demande donc 3 personnes à chaque fois, donc il peut avoir de l'attente. Soit par le chemin, qui est absolument splendide. Hein. Vraiment, je vous laisse vous renseigner sur le GR, donc Rosier Les Vignes Sablières, Sablière Les Vignes, qui est un GR magnifique qui passe vraiment de l'intérieur de la gorge. Donc, vous avez une vue splendide. Il y a même une coulée de basalte avec un volcan avorté. Donc, il y a plein de trucs à raconter aux enfants. C'est même prévu de le faire avec l'âne. Plus tard, dans la saison, de faire des balades environnementales, bien sûr, ça passe par là, la sensibilisation passera par là. Et donc voilà, il y a ce chemin qui est idéal, et c'est vrai que je fais un appel en fait à partenaires, et j'envoie vraiment ça aux sociétés de transport, à la fois privées et publiques, parce que ce qu'on pourrait faire, c'est une venue par le chemin, donc d'une heure, vraiment un chemin familial, large, etc., vraiment qui posera aucun problème, un chemin familial, pour toute personne qui sait marcher pendant une heure. Il est plat, etc. Et on pourrait assurer un retour, par contre, par la barque, avec un système de navette qui amènerait donc les gens au parking du Rosier. Il y en a pour 5 minutes en voiture. Et là, c'est un appel à la coopération, donc comme pour tout ce projet-là, un appel à la coopération. Donc, si la mairie du Rosier, si la mairie de la commune de Montsiéjouls, de la Muse-Saint-Pal, souhaite avoir un peu de monde parqué, qui garde sa voiture et qui fait vivre aussi son village, je les laisse s'organiser pour effectivement faire un appel légitime à leurs partenaires et il y en a des bus, des minibus qui tournent toute la saison pour les canoës et kayaks, qui tournent toute la saison pour, du minibus, on en a dans la région, dans les gorges, il y en a du minibus, on le sait l'été, Donc tous ces minibus qui ne marchent pas en hors saison, on aimerait les refaire marcher. Et qui profitent à notre tourisme et refaire marcher du coup qu'on utilise les outils qu'on a déjà. Et c'est pour ça que la coopération est possible, parce qu'elle ne nous coûte rien. Je dis souvent à mes partenaires, si ça ne vous coûte pas, pourquoi vous voulez me faire payer?
Oui, c'est pas faux.
Ouais.
C'est sûr. Mais c'est aussi un changement de
mentalité.
De mentalité
C'est pour ça que c'est un projet qui est ouvert à ceux qui veulent changer. C'est pour ça que je parle d'un modèle dépassé et que je cite souvent le modèle de la création monétaire argent-dette, qui montre qu'effectivement, on est sur un ancien modèle.
C'est réellement ce que tu disais au tout début. En fait, la Sablière, c'est vraiment un prétexte pour remettre en place la coopération. Quoi.
C'est une prise de parole. C'est outil qui permet de reprendre la parole et de faire... En fait, c'est une démonstration. On est vraiment sur une démonstration. Et ce chanter Noël, ce premier événement et tous les autres vont en être, de montrer que c'est possible. Il faut montrer aux gens que c'est possible, ça suffit. Ça suffit de nous faire croire qu'on est en crise et qu'on l'aura pendant encore 20 ans. Ça suffit de nous, qu'on se tourne vers des nouvelles croyances. Et si effectivement il faut parler de nouveau monde, mais attention, je ne veux pas envoyer un grand message au Rainbow. J'aimerais pas qu'on soit 3000 ou 4000 à la Sablière dimanche. Mais faut qu'on soit sur des nouvelles valeurs, quoi. Donc des valeurs de nouveau monde.
Une belle promesse. On se propose effectivement de continuer à suivre justement tout ce qui va se passer sur ce lieu de phosphoration, de partage d'expériences, de collaboration.
Ah, faudra être là dimanche, ça serait bien une émission en direct.
La prochaine fois.
Si vous avez
j'ai le dictaphone, j'ai déjà le dictaphone sur place.
Allez, il nous faut internet pour. Je sais pas comment
on
est desservi.
On est une zone de déconnexion. On se déconnecte. On va au village.
C'est malheureusement le problème pour nous, pour le direct. On aura j'imagine.
Pour une rediffusion.
Et puis on aura l'occasion de réannoncer un peu tout ce que.
Et oui, puisque déjà il y a la rediff du MAG samedi matin déjà.
Voilà, et puis tout. Tout au long de l'année, dans les infos locales.
Voilà.
Et je serais ravi de travailler sur un jingle avec vous.
Un jingle?
Il faut travailler un jingle.
Je note.
C'est un nouveau sujet pour Juliette. Ouais. Peut-être vous pouvez nous dire comment on peut vous soutenir, donc en venant vous visiter ce week-end, mais peut-être poursuivre l'actualité.
Alors poursuivre l'actualité, donc j'aimerais que ça soit effectivement que vous ayez vraiment ce fil rouge là. Sinon, toute l'information pourra passer et sera remise. Donc à l'issue de la deuxième journée portes ouvertes, parce qu'on vous le rappelle, hein, que les gens comprennent bien, lors de ces deux journées portes ouvertes, ces journées portes ouvertes ont pour but de créer et de coordonner les festivités de Noël. Donc c'est à l'issue de ces journées portes ouvertes qu'on saura les ateliers qui sont maintenus, les ateliers qui sont supprimés, ceux qui vont être créés, les chantiers qui peuvent être développés. Aujourd'hui, on en a validé 3. Il en reste encore 4 à assurer. Bref, comme c'est parti, de toute façon, je pense que toute la programmation va être tenue. Mais donc à l'issue de cette deuxième journée, donc si les personnes ne peuvent pas venir, ils peuvent se renseigner en nous envoyant donc un mail, bien sûr. Et là, on va donner donc tout le programme de diffusion, tous les partenaires qui participeront, etc. Et cette adresse internet, alors je vous laisse prendre un stylo. Alors cette adresse internet, c'est bon, le stylo, il est là.
De toute façon, vous pourrez réécouter l'émission sur 48fm.org. Donc comme ça, vous pourrez. Si vous avez loupé l'adresse.
Donc il s'agit de chanter Noël, puisqu'on est sur un. En fait, je viens des Antilles. Je viens des Antilles. J'ai vécu 10 ans sur les Antilles et aux Antilles, on chante Noël. La période de décembre est une très, 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 très belle période de festivité. Où on ouvre les portes, où on ouvre vraiment les gens ouvrent leurs portes. Tout décembre aux Antilles, les gens ouvrent leurs portes. Donc c'est un beau symbole aussi. Et donc c'est pour ça que je l'ai appelé chanter Noël. Et c'est important de chanter. On va chanter des cantines. On va remettre des papiers avec des paroles. Pour qu'on chante, etc., parce qu'il est important de chanter. Il est vachement important de chanter, hein, ensemble et tout, ça permet d'unir, de fédérer. Le chant est vachement important, hein, c'est pour ça que le chant de la Marseillaise existe, hein, c'est parce que ça, c'est important. Et donc, l'adresse email, donc si vous avez le stylo.
Ils ont eu le temps,
il s'agit donc de chanter Noël, donc EZ, hein, c'est un impératif. Donc, chanter Noël, bien sûr, sans l'accent, il n'y a pas d'accent, hein, chantenoël.org@hotmail.com. Donc chantenoël.org.
Les dans l'adresse.
Ouais, dans l'adresse bien sûr. Ouais. Ouais. Comme un nom. Voilà. Donc chantenoël.org@hotmail.com.
Ok, ben voilà, l'information est passée et ça. On peut réécouter bien sûr ce mag.
Voilà, donc.
Jeudi à 18h11.
Je suis pas encore très au fait du planning.
C'est ça. Alors, le problème c'est que moi, comme j'anime l'émission qui est croisé au terme de rediffusion. Moi d'habitude je dis l'inverse. Donc c'est ça, c'est jeudi à 18h11.
Et sinon ce sera podcastable.
Et samedi à 11h.
Voilà. Et samedi à 11h et ce sera
podcastable.
Podcastable dès cet après-midi sur 48fm.org. On vous remercie.
Oui, on vous souhaite une bonne réussite dans vos projets.
Nous, on va travailler ensemble sur l'identité visuelle quand vous donnez au hameau. Parce que c'est vrai que ça, on l'a pas, tout ce volet-là.
Les rencontres se font sur le plateau.
J'aurais oublié quelqu'un d'important dans la direction artistique du hameau et mené par les plasticiens d'Oze. Ben Noah et deux artistes plasticiens qui s'appellent Ben Noah et Alex Taz, qui effectivement sont en train de mettre des scénographies en place qui valent vraiment vraiment le détour et qui avaient été vus dans Notre-Dame-des-Champs, à l'église Notre-Dame-des-Champs, pour ceux qui l'ont vu. Il y a beaucoup de gens qui ont pleuré pour le coup à l'intérieur de cette exposition. Et ils sont à la direction artistique maintenant, attitrée de la Sablière. Donc on recherche direction des programmes et on cherche à créer l'identité visuelle.
Bon, ben merci beaucoup en tout cas à tous les deux d'être venus dans ce 86e mag. On se retrouvera la semaine prochaine avec un mag un peu particulier puisqu'il sera consacré au festival littéraire Aime Lire. Et en attendant, on vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne fête. Une bonne fin de semaine.
Et tout de suite, l'agenda culturel.
Allez.
C'est parti.
48FM Le Mag.
Ouais, merci.
Le Conseil Général soutient la diffusion culturelle tout au long de l'année en Lozère. Retrouvez sur culture.lozère.fr toute la programmation, les possibilités de pratiques artistiques, des reportages et des jeux pour gagner des places, abonnements et divers lots. Le Conseil Général de la Lozère vous présente les saisons et les événements culturels du département sur 48FM.
Votre agenda culturel du mardi 18 au lundi 24 novembre 2014. Mardi 18, du cinéma au cinéma Trianon Demande avec Chaque jour que Dieu fait. Antonia est sicilienne et travaille dans une société de location de voitures. En parallèle, elle compose des chansons en espérant pouvoir percer dans la musique. Lors d'un concert, elle rencontre Guido, un portier de nuit toscan passionné de littérature et d'histoire antique. Ils ont tout pour être heureux et espèrent concrétiser leur histoire en ayant un enfant. Mais les difficultés se multiplient. Ce sera à 20h15 et c'est proposé par le Ciné-Club Mandois et l'association Mande Volterra. Pour un tarif de 52€ pour la carte annuelle, un tarif réduit de 42€, la carte demi-saison 36€ et la carte 4 séances 26€.
Mardi 18 à la salle du conseil municipal de Marvejols, mercredi 19 à la salle communale de Saint-Julien de Tournelle et jeudi 20 à la salle Véran de Barjac, vous pourrez assister à un documentaire, La fabuleuse histoire de la paravision. Dans le cadre du mois du film documentaire, l'histoire de la paravision est réellement fabuleuse. Il s'agit en fait d'une firme cinématographique créée en Aveyron par Guy Brunet, ancien ouvrier de la sidérurgie et artiste pétri d'une humanité traversée de fulgurances. Son œuvre inconcevable fait aujourd'hui l'émerveillement des grands musées et des spécialistes d'art moderne et d'art brut en France, d'Europe et du monde. Ce film raconte l'histoire de cet invraisemblable personnage, la saga de son rêve d'enfant, devenir réalisateur, lui qui est né dans les années 40. Ce rêve d'enfant poursuivi 6 décennies, contre vents et marées, sous les risées, est devenu une réalité enchantée. Ce sera à 20h30, c'est gratuit et ce sera donc c'est organisé plutôt par le Conseil Général et la Bibliothèque Départementale de Pré.
Mardi 18 à 20h30, mercredi 19 à 18h10 et vendredi 21 à 15h30 au Ciné-Théâtre, un documentaire, Le sel de la terre. Projection suivie d'un débat animé par Sylvère Petit, réalisateur professionnel. Depuis 40 ans, le photographe Sebastio Salgado parcourt les continents sur les traces d'une humanité en pleine mutation. Alors qu'il a témoigné des événements majeurs qui ont marqué notre histoire récente, conflits internationaux, famines, exodes, il se lance à présent à la découverte de territoires vierges aux paysages grandioses, à la rencontre d'une faune et d'une flore sauvage, dans un gigantesque projet photographique, hommage à la beauté de la planète. Sa vie et son travail nous sont révélés par les regards croisés de son fils, Giuliano, qui l'a accompagné dans ses derniers périples, et de Wim Wenders, lui-même photographe. Ce sera pour un tarif de 6,80€ et 5,80€ tarif réduit. C'est un documentaire tout public et c'est proposé par le Ciné-Théâtre de Saint-Chély-d'Apcher.
Jeudi 20 novembre, au Dracar, amande donc de la musique, et Trucci from Lakota de Volterra. Donc c'est un concert rock blues dans le cadre de la Semaine Toscane. Ce sera à partir de 19h. C'est pour tout public et c'est organisé par le Dracar et l'association Mande Volterra.
Rencontre avec Thierry Arnal, directeur du TMT, qui nous présente le spectacle Risque.
Bonjour, alors nous accueillerons le jeudi 20 novembre à la salle polyvalente de Marvejols à 20h30 le spectacle Risque qui nous est proposé par la compagnie L'Interlude de Théâtre Oratorio. C'est un spectacle qui nous parle de l'adolescence. On va retrouver sur le plateau 5 comédiens qui sont à la fois danseurs, chanteurs et qui explorent avec une incroyable puissance le passage de l'état d'enfant à l'adolescence. 5 paroles qui vont s'entrecroiser, s'entrechoquer pour nous parler à un moment donné d'une position d'un jeune adulte ou d'un adolescent face à un risque. Voilà comment il va intégrer cette notion de risque, l'appréhender. La passer avec brio ou pas, ou sur l'échec. Spectacle très dynamique, à conseiller à tout le monde à partir de 14 ans pour un tarif de 12€ et de 8€. Ce spectacle est accueilli en partenariat avec les Scènes Croisées de Lozère. C'est un texte de John Retallack, qui est un très grand auteur anglais.
Merci Thierry. Je vous y vais, à la salle des fêtes de Chanac, de la musique avec Taziri. C'est une sortie de résidence, musique de monde, France-Maroc. Vous avez pu découvrir Taziri, la nouvelle création de Titi Robin, lors du dernier festival des Tours du Monde. Soutenue par le Silo, l'équipe artistique de Taziri reviendra à Chanac en résidence pour préparer l'enregistrement de leur futur album. Titi Robin prolonge sur scène sa collaboration entamée avec El Mehdi Nassouli lors de l'enregistrement du CD des Rives Marocaines. El Mehdi Nassouli est un jeune musicien gnawa marocain extrêmement talentueux qui a également en héritage une solide culture berbère du sud Maroc. Ce sera à 20h45 et c'est proposé par l'association Détour du Monde.
Vendredi 21 à 14h à la maison Richard à Nasbinal. Samedi 22 à la filature des calcaires à Langogne à 16h30 pour assister à un documentaire Découvrir l'ailleurs. Dans le cadre du mois du film documentaire, un programme de courts-métrages, documentaires animés. Les jeunes spectateurs pourront s'évader grâce à un programme tourné vers l'ailleurs. Ils découvriront des rituels méconnus, des animaux improbables, des contrées ignorées. Ces courts-métrages animés documentaires privilégient la sensation, pariant sur la couleur, le graphisme et le son, pour évoquer et parfois expliquer les territoires à explorer. Collage, animation d'objets, dessins, autant de techniques stimulantes pour les yeux et l'esprit permettant d'aborder le documentaire autrement. Ces documentaires sont gratuits, c'est à partir de 7 ans et c'est organisé par le Conseil Général et la Bibliothèque départementale de Pré.
Vendredi 21, au château de Baours, de la musique avec un opéra Gusto. Vous pourrez entendre des chants sacrés en étrusque et gaulois par Ian Bourda. Pierrot Nissim interprétera des chants de Toscane et d'autres terres. Et ensuite, un dîner étrusque à partir du livre de recettes de Mario Ruspoli avec intermèdes musicaux. C'est dans le cadre de la semaine Toscane. C'est à partir de 19h et c'est organisé par l'association Mande Volterra.
Vendredi 21, toujours, à la Jeunette Verte à Florac, c'est de la danse. Gros, suivi de les séances obligées. La première partie, gros, donc, c'est l'histoire d'un homme gros, d'un homme qui danse. Franck Corcoy, danseur et chorégraphe, a trouvé dans le hip-hop une échappatoire, un moyen d'exister, de s'exprimer. Il nous livre un solo autobiographique plein d'émotions, confrontant le poids des préjugés à celui de ce corps trop lourd. Il met en lumière les difficultés du quotidien lorsqu'on est enfermé dans une enveloppe surdimensionnée. En deuxième partie, vous pourrez assister donc aux Les silences obligés. Les thèmes qui habitent les créations de Nabil Hermazia sont centrés sur l'individu, son histoire, son rapport à l'autre et à la société. Son vocabulaire dansé prend sa source dans des situations, des gestes quotidiens devenus banals qui ne trahissent souvent qu'une part de notre identité, de nos mémoires culturelles, sociales et familiales, de nos propres héritages. Pour ce nouveau spectacle, il s'intéresse plus particulièrement aux questions du visible et de l'invisible, s'adressant entre autres à un public de personnes déficientes visuelles. Tout un processus de création en lien avec ce public a été mis en place, notamment à travers des ateliers donnant naissance à un duo plein d'humanité. C'est à 20h30, 10€, 8€, 5€, à partir de 10 ans, c'est à la Jeunette Verte.
Vendredi, toujours, à la Maison du Temps Libre à Chirac, un documentaire, Jacqueline de Chambrun sans jamais renoncer, dans le cadre du mois du film documentaire. Portrait de Jacqueline de Chambrun, inlassable combattante de l'ombre pour la liberté, l'égalité et la fraternité, depuis la guerre d'Espagne jusqu'au sans-papiers, en passant par la résistance, la lutte pour l'avortement, les combats pour le droit des enfants. Ce documentaire retrace plus de 80 années de combat pour un monde plus juste. Ce sera à 20h30, c'est gratuit et c'est proposé par le Conseil Général de la Lozère et la Bibliothèque départementale de Pré.
Foro Gringo, dont 4 jeunes musiciens qui viennent du Gard, que nous avons déjà accueillis en 2012, et qui nous présentent une musique brésilienne et qui est très entraînante et gaie, originaire du nord-est du Brésil. Vous pourrez les écouter le vendredi 21 novembre à Masdeval et le samedi 22 novembre à Saint-Symphorien.
Vendredi 21 à 21h et le lundi 24 à 18h au Ciné-Théâtre, un documentaire à la recherche de Viviane Meyer. L'incroyable histoire d'une mystérieuse inconnue photographe connue aujourd'hui comme l'une des plus grandes street photographers du XXe siècle. Née à New York d'une mère française avant de résider à Chicago, Viviane Meyer était inséparable de son Rolex Flex et prit tout au long de son existence plus de 100 000 photographies sans jamais les montrer. Pour être libre d'exercer son art quand elle le voulait, Viviane Meyer fut une nanny excentrique toute sa vie. Cachée dans un garde-meuble, c'est par hasard que John Maloff mit la main sur les photos de Viviane Meyer en 2007. Depuis, il n'a cessé de chercher à mettre en lumière son travail et les expositions se multiplient partout dans le monde. Une projection suivie d'une discussion, 6,80€ et 5,80€ en tarif réduit, c'est ouvert à tout public et c'est organisé par le Ciné-Théâtre de Saint-Gilles-d'Apcher.
Samedi 22 novembre, à la salle Urbain 5 du théâtre, avec le spectacle « Aïe oui ». C'est un spectacle pour enfants proposé par l'association Derrière le tableau au profit de l'association Du Soleil en pédiatrie. Ce sera à 15h, c'est pour un tarif de 5€ et gratuit pour les enfants. Et c'est un spectacle tout public.
Samedi 22 novembre, à la salle polyvalente de Ballaroux de la danse avec Milonga. C'est une auberge espagnole avec des expositions et elle danse Milonga donc. C'est à 20h, un tarif unique de 4€ et c'est organisé par la Compagnie du Lézard.
Samedi toujours, au théâtre de Mende de la danse avec Brésil. Après la venue à Mende de Agua et de Correra en 2010, Mourad Merzouki de la compagnie Kafig revient avec un spectacle créé par plusieurs chorégraphes. Mêlant force brute, hip-hop, poésie, le spectacle donne à voir en condensé des mondes sensibles. Ici, à travers ce qui les unit, la danse, la compagnie Kafig explore les liens qui se tissent entre les hommes, faire et défaire les nœuds que l'on rencontre sur son chemin. C'est à 20h30 pour un tarif de 16€ et de 10€, accessible dès 7 ans et c'est proposé par la ville de Mende.
on clôturera le festival par Antonio Rivas et son sextet. Antonio Rivas est venu durant le festival d'accordéon à 3 reprises. Et cette année, il va participer avec son sextet pour clôturer cette 20e édition sur les rythmes de la Colombie natale, de sa Colombie natale avec le merengue, la cumbia, le vallenato, le samedi 22 novembre à Saint-Étienne-du-Val-d'Aunès. Et c'est un concert qui se fait en partenariat avec les 3 foyers ruraux du Val-d'Aunès, le foyer rural de Langlade, de la Nuéjolle et de Saint-Étienne-du-Val-d'Aunès.
Lundi 24 novembre, à la Jeunette Verte, un documentaire, Les Tourmentes, dans le cadre du mois du film documentaire. Pendant le rude hiver qui dure 6 mois, les vastes plateaux du Mont-Lozère sont désertés de toute présence humaine et battus par des tourmentes de violentes tempêtes de neige aveuglantes qui désorientent les personnes qui s'en trouvent prisonnières. Les habitants des hameaux environnants qui se sont perdus et ont disparu pendant les tourmentes sont appelés les égarés. Tant que leurs corps n'ont pas été retrouvés, on dit qu'ils errent dans l'attente de retrouver leur chemin. Ce film, plastiquement très fort, nous plonge dans les tourmentes telles que vécues et ressenties par les habitants des hameaux du Mont-Lozère. Ce sera à 20h30 et c'est organisé par le Conseil Général et la Bibliothèque départementale de Pré. Bonne semaine à tous.
Bonne semaine.